Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Olivier Naoum.
Bienvenue dans l'Oreille aux Aguets, l'émission qui prend l'époque à rebrousse-plume en nous sculptant les mots. Bonjour Jeanne Bordeaux.
Bonjour Olivier.
Alors des expressions des mots que nous allons recenser avec vous, passionnés des mots naturellement Jeanne. Et commençons par le mot travail qui tourne beaucoup sur les rotatifs de nos journaux. Travail, pas labeur, hein, c'est bien travail qu'on ausculte en ce moment.
Oui, en 2008, année que nous avons déjà quittée, le travail était un des mots importants. Mais il faut se souvenir que travail ça vient de trépalium et c'est la tortue. Un outil de torture. Alors curieusement, Olivier, on oppose souvent le travail à la paresse, au repos, voire au génie. Donc vous avez beau dire il faut s'enfuir et quitter le mot labeur, quand on oppose le travail au génie, on voit que le travail a quelque chose de douloureux. Hein. On est d'ailleurs dans une époque où on a introduit les RTT, c'est parce qu'on ne pense qu'à réduire le temps de travail.
C'est-à-dire qu'il est difficile de positiver ce mot qui reste quand même un mot synonyme de labeur.
Oui, dont le bruit crée presque aussitôt une certaine fatigue. On sait qu'il va falloir relever ses manches, même si on est dans l'immatériel désormais. Le travail implique quelque chose d'un peu encore douloureux.
Et vous avez remarqué, Jeanne, qu'on vit une époque extraordinaire puisqu'on a un ministère du Travail et un secrétariat d'État à l'emploi. Travail n'est pas égal à emploi.
Oui, c'est presque un mot que pourraient utiliser nos humoristes, Olivier. Bravo.
Alors, à propos de mots étranges, repérez le mot déceptif, qui a plusieurs acceptions et qui revient assez souvent. Il y a déceptif au sens de dissimuler la vérité et déceptif qu'on emploie aussi parfois pour parler d'une œuvre d'art. Déceptif, en l'occurrence, qui n'a pas rencontré son public. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment utile d'avoir recours à ce terme déceptif qui n'est pas sans nous rappeler quelques mots qu'on trouve de l'autre côté de la Manche dans la langue de Shakespeare?
Écoutez, au risque de déplaire, mais c'est un risque que j'aime bien prendre, je pense que le mot évoque une idée et que dans le sens, le son est toujours concerné.
Donc, cette fin en if, vous voulez
oui,
dire ?
Oui, voilà. Donc si ça n'est pas réceptif et que déceptif devient l'inverse de quelque chose qui n'est pas bien reçu ou complètement compris, pourquoi ne pas créer parfois des mots ? Et bien sûr, dans déceptif, il y a quand même le souvenir de décevant.
Mais donc vous tolérez cet emprunt linguistique, en fait, ma chère Jeanne ?
Si il est compris et que dans l'entendement de ceux que l'on teste, c'est un entendement commun, alors c'est un mot avec lequel on peut communiquer puisque tout le monde y met un sens commun reconnu.
Voilà le parfum des mots qui nous embaume, ce qui nous amène habile transition à parler justement des noms de parfums parce que loin du déceptif, on est dans une époque où on est empli de magnifique. Hein, le magnifique inspire les parfumeurs.
En 2008, là encore, c'est pas si loin, pour sentir l'odeur de l'époque, eh bien, c'était intéressant de regarder et lire les noms des parfums. Curieusement, ils ont souvent été courts. Il y a eu L de Yves Saint Laurent, le B de Boucheron, et Lancôme a osé un mot qui a du beau, de la grandeur, du somptueux, du remarquable, qui est le mot magnifique. Alors, c'est très intéressant de regarder l'époque à travers les noms donnés aux parfums. Par exemple, Jean Patou avait osé, en 1946, créer un parfum qui s'appelait « L'heure attendue ». Et « L'heure attendue », c'était bien sûr l'heure de la libération.
Et on trouve aussi, d'ailleurs, dans notre époque, des parfums qui continuent de cultiver des mots évidents, comme « Madame », par exemple, de Gautier. Là, c'est clair, c'est simple, ça donne ce sentiment d'être maîtresse de ce qu'on va porter.
Oui, c'est un effet d'insistance, il y a quelque chose de très confirmé.
Alors, à propos de mots, pour conclure, qui peuvent aussi alerter nos oreilles, tintinabule, comme vous le diriez, Jeanne. Moi, j'ai repéré le mot propale. Alors, ça peut paraître étrange, propale. Un mot qu'on emploie dans le monde du travail pour parler d'une proposition qui n'est pas encore concrétisée. J'ai fait ma propale. Alors, est-ce que vous avez un indice pour nous expliquer pourquoi cette fin en al de propale et pas cette fin en ion dont on a l'habitude, qui est proposition, et là, qui est complètement oubliée, donc, pour préférer propale?
Écoutez, dans cette petite conversation spontanée sur la langue que nous menons désormais, vous m'obligez à réfléchir vite, mais je vais encore peut-être coaguler quelque chose d'étonnant, c'est que je vais vous dire qu'une propale dans le monde et le jargon de la communication, c'est cette proposition que vous avez décrite. Mais comme une proposition, c'est une offre sur laquelle on n'a aucune certitude, est-ce qu'on pourrait se dire que finalement ces communicants qui ont quand même une oreille liée à la musique des mots ont associé à cela le mot aléatoire. Parce que sur cette proposition-là, on n'a pas encore de réponse.
Ah oui, il y a le hal de aléatoire voilà. Dans Propal.
Alors on pourrait imaginer, oui.
Eh bien écoutez, on laissera les aléatoires nous guider jusqu'à notre prochain rendez-vous de l'oreille aux aguets sur Canal Académie. Au revoir Jeanne.
Au revoir Olivier.